Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis,
c'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui avec vous à une semaine du Conseil européen de printemps.
J'ai
cette occasion pour féliciter votre président, le président Nielsen.
Je
l'ai reçu immédiatement après son élection et je lui ai transmis mes meilleurs vœux pour le succès du Comité économique et social.
Je suis
content que ce soit notre rencontre à la veille d'un Conseil européen de printemps qui est très important.
Of the spring.
Je crois que nous avons maintenant toutes les cartes
European
en main
Council.
Pour franchir la semaine prochaine
now,
une étape décisive dans la mise en œuvre de notre réponse globale à la crise fondée sur une coordination renforcée de nos politiques économiques. Nous sommes à l'un de ces moments clés de la construction européenne, où plus que jamais. Le dialogue avec les partenaires sociaux est fondamental. Et le sommet tripartite qui se tiendra précisément avant la réunion du Conseil européen, on sera d'autant plus important. La crise a eu un effet profond sur nos sociétés et son coût humain en particulier a été très lourd et reste encore très lourd. Notre enjeu essentiel est donc de restaurer un climat de confiance propice à une relance, une croissance durable, équitable et génératrice d'emplois. La crise a mis aussi en face à des réalités que nous ne pouvons plus ignorer. Elle a contribué à accélérer les prises de décisions politiques en faveur d'une plus grande intégration européenne. C'est très précisément ce dont nous avions besoin, non pas pour donner plus de pouvoir à Bruxelles, mais pour donner plus de force à une Europe qui doit continuer à s'affirmer dans un monde qui devient de plus en plus compétitif. Nous savons maintenant à quel point nos économies sont interdépendantes. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous attaquer avec détermination à nos faiblesses structurelles, à renforcer les piliers économiques de notre union économique et monétaire. Nous avons une union monétaire pour la zone euro, mais nous n'avions pas vraiment encore une union économique. On est en train de la consolider. C'est pourquoi c'est important d'avoir la consolidation fiscale, la stabilité financière et plus de gouvernance économique. Ces éléments ne sont plus des options, ce sont des impératifs qui se renforcent mutuellement. Cela fait plusieurs années déjà que la Commission européenne appelle à une plus grande gouvernance économique. Nous avons souligné, par exemple, qu'on a présenté notre document Euro at 10 pour célébrer les 10 ans de l'euro. Pendant longtemps, c'était prêché dans un quasi-désert, tant les réticences de certains gouvernements étaient tenaces. Aujourd'hui, je crois que c'est évident. Ce n'est pas simplement les Européens les plus convaincus que demandent cette gouvernance plus poussée. Ce sont les marchés qui l'exigent comme façon de donner de la confiance et de la cohérence à nos efforts. Chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître la nécessité d'aller plus loin dans cette gouvernance. Et j'y vois la preuve que nous avons su tirer les bonnes leçons de la crise. Nous sommes engagés sur la bonne voie pour que l'Europe sorte plus forte de cette crise.
On the right lines
si
to dit, ensure that Europe gets
nous
out
faut être réaliste, dire la vérité, la sortie de la crise
truth,
comme la nécessaire adaptation aux économies, à l'évolution de nos sociétés vieillissantes et aussi à la nouvelle donne géoéconomique mondiale, demanderont des efforts de la part de tous. Nous le voyons bien, plusieurs de nos États membres ont dû s'engager sans plus tarder dans des programmes ambitieux pour assainir leurs finances publiques. C'est absolument incontournable, car sans assainissement des finances publiques, il n'y aura pas de reprise économique saine fondée sur des bases solides. Sans assainissement des finances publiques, il n'y aura pas de confiance. Sans confiance, pas d'investissement. Sans investissement, pas d'emploi. C'est un acte de responsabilité et de solidarité à l'égard des générations futures qui ne doivent pas porter le poids de nos dettes ni payer le prix de l'absence de réformes, trop souvent remises à demain. C'est aussi un acte de responsabilité et de solidarité nécessaire au sein de l'Union européenne, où tout dérapage d'un État membre, on l'a vu, peut avoir des conséquences sur les autres, sur la confiance générale dans l'économie. Il est évident
la conciliation fiscale budgétaire n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Elle est avant tout la garantie de notre cohésion et de notre économie sociale de marché. Elle est la porte ouverte au rétablissement de la confiance et la relance de la croissance. Elle nous fait du sens si elle va de pair avec la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires à une croissance durable et génératrice d'emplois. Il est tout aussi indispensable d'investir en même temps dans des secteurs d'avenir tels que la recherche et l'innovation. Les plus vulnérables de nos sociétés ne doivent en aucun cas subir un poids disproportionné des efforts demandés et doivent être parmi les premiers bénéficiaires de nos politiques de réforme. Il faut aussi avoir une attention particulière à la lutte contre la pauvreté. Ce n'était pas facile de mettre dans la stratégie 2020 la lutte contre la pauvreté comme des objectifs pour l'Union européenne. Certains États membres s'y opposaient clairement en disant que c'était à cause de la subsidiarité, pas notre compétence, c'était leur compétence. Je crois que dans la situation actuelle, s'il n'y a pas un effort volontariste en spécial pour les exclus de la société et pour ceux qui risquent de devenir exclus de la société. Parce qu'il y a des phénomènes de nouvelle pauvreté en Europe, alors là, nous aurons non seulement des problèmes d'injustice très graves, mais aussi des problèmes de soutenabilité et des problèmes de cohésion dans les réformes nécessaires. C'est aussi pourquoi l'accès à l'éducation et la formation professionnelle, la création d'emplois, la lutte contre cette exclusion sont au cœur de notre stratégie Europe 2020. Europe 2020 doit appartenir à tous. Nous devons tous être solidaires dans sa mise en œuvre. C'est le gage de son succès. Je suis donc particulièrement heureux du soutien que votre comité a apporté à cette stratégie. Je compte sur votre active participation. Europe 2020 rassemble tous les acteurs européens au profit d'un même intérêt commun, une croissance européenne qui soit intelligente, durable, inclusive. Europe 2020 souligne par ailleurs l'importance de garder une Europe ouverte, car le commerce est plus croissance, plus compétitivité, plus emploi. Libérer tout le potentiel du marché unique, notre meilleur atout depuis presque 20 ans, contribuera également à apporter plus de croissance et plus d'emplois. Je me réjouis du dialogue enrichissant et constructif que vous avez pu développer avec le commissaire Barnier sur le Single Market Act, qui est, vous le savez, une étape majeure dans la relance du marché unique à l'aube du 20e anniversaire du marché unique. Donc, nous présenterons le Single Market Act le mois prochain. Enfin, Europe 2020 ouvre la voie à une meilleure coordination de nos politiques économiques, ce qui est agir dans l'esprit du traité, le traité de Lisbonne, dont l'article 121 spécifie bien que les États membres doivent coordonner leurs politiques économiques. Entendons-nous bien, ce n'est pas passer des compétences des États membres pour l'Europe, mais c'est évident que dans un monde interdépendant et dans une Europe et une zone euro de plus en plus interdépendante, c'est la question même du bon sens qu'on puisse coordonner des politiques économiques pour éviter des spillovers négatifs, pour éviter des problèmes comme ceux que nous avons connus récemment. Afin d'élargir cette coordination qui nous a tant fait défaut par le passé, nous sommes tous mis d'accord pour la mise en place d'un nouveau cycle de gouvernance économique, ce qu'on appelle maintenant le semestre européen. Nous avons ainsi franchi un pas fondamental, puisque désormais, nous pourrons tous tirer les bénéfices d'une coordination ex ante, non seulement des politiques budgétaires, mais aussi des politiques économiques et des réformes structurelles de chacun de nos États membres. Le tout premier semestre européen a été lancé en janvier par la présentation de l'examen annuel de croissance préparé par la Commission. Nous y disons clairement que les politiques actuelles ne sont pas suffisantes. Maintenant, on engage ce débat et j'espère avoir des conclusions opérationnelles.
Ladies and gentlemen, I believe together we need to do more to increase growth and competitiveness. Particularly, we need to take action in priority areas such as pensions reform and reform of the labor market. It goes without saying that these steps need to be taken in close consultation with the social partners. And here I should underline just how much importance the Commission attaches to your committee's involvement in the work for the European semester. I would also like to see the Commission proposals aimed at deepening our economic governance by reinforcing fiscal surveillance and correcting macroeconomic imbalances adopted in the very near future. Today we had good news. I don't know if you already you have been informed that the Council today agreed unanimously on our proposals for economic governance. So now we hope that the European Parliament will put even more impetus in its work so that we can complete these proposals. Our objective here is to increase both efficiency and effectiveness by means not just of preventive measures, but of corrective measures, so that we can indeed, if necessary, through sanctions, implement a credible governance for Europe. It is against this backdrop of reinforced economic governance that the idea of a competitiveness pact, now known as the Pact for the Euro, was put forward. The Commission has been for a long time asking Member States to commit to higher level of economic policy coordination and stronger economic governance, especially in the euro area. This is now accepted. As you know, last Friday, euro area leaders have agreed on a pact for the euro, which should be formally adopted at the next European Council next week. I've always been very clear about the key principles to be observed in this matter. I am very pleased that these conditions have been met. The pact for the euro, as it is now, approved after the work made notably by the President of the European Council and myself in consultations with all the member states of the euro area, but also consultations with non-euro area member states, now we can say it is fully in line with the treaty, it is anchored in Europe's institutional framework, and with full respect of the role of the Commission and the other community institutions, the Parliament as well, and social dialogue. I want to underline this because, as you know, in the first proposals there was not a reference to the social dialogue or to the role of the social partners. And it was precisely one of the points myself and the Commission we have insisted to have in the Pact for Europe. It is also fully in line with the economic strategy set out for the 27 Member States in our annual growth survey. It focused, it's true, primarily on matters under national competence. But it is precisely the way to achieve a higher level of coordination of those national competences, because the situations are very different in our 27 Member States, in the 17, but also in the 27 Member States. And so the concrete commitments the Member States take on competitiveness, employment, public finances will be brought into their stability programs and national reform programs, and they will be assessed by the Commission. So I believe we have avoided what could be a risk. It was to have a kind of a competitiveness pact and a pact for the euro outside the treaties, duplicating structures, making life more difficult, and in fact making things more complicated, even less readable from the citizens. What is important is to have this joint approach now. As I said, the pact is open to the non-euro area members, if they so wish. The euro area cannot be a closed club. We should never put in danger the basic principles of the integrity of the European Union, namely the single market that is for the 27. The Commission has pleaded for all these conditions to be met, and that's what has been agreed. The pact for the euro, I repeat, is not a parallel exercise. I think it can genuinely represent an added value, both in terms of policy and in terms of ambition. We also need to keep focus on what remains to be done, notably for enhanced financial stability. I'm thinking in particular of the financial stability of the Eurozone. The Commission has been stressing for some time the need to reinforce the effective financing capacity of the European Fund for Financial Stability and broaden its scope. A few weeks ago, this still seemed impossible. Now we have a decision. As you probably remember, some weeks ago, the Commission and myself, we were very strongly criticized for putting these proposals on the table. Now they were unanimously approved by the euro area and member states. So the reinforcement of the FSF and also widening the scope of its activities. Once again, we knew that that had to be the case, because it is critical for the credibility of the euro area. On Friday, in fact, European leaders have agreed they will make sure the full amount is available, that is 440 billion euros for the current fund, 500 billion euros for its successor, the future permanent mechanism. I'm also thinking of the European banking sector. In the months ahead, we need to apply more stringent stress tests to banks. A healthy banking sector is a key factor in economic recovery. This year, we'll also have to take budget decisions. that will shape Europe's future, including decision on the cohesion policy and also agriculture, fisheries policies. I'm counting on your committee's support and involvement in these areas too. We must make sure that our spending is targeted properly so that it contributes effectively to achieving the policy objectives of Europe 2020. We have therefore arrived at a crucial time for the future of European integration. It is imperative that we remain focused on what really matters and continue to act with determination. In particular, we should not forget that our union is a true political union based on values, like those of peace, democracy, freedom, and justice. People of the South Mediterranean countries, young men and women, in Tunisia, Egypt, also in Libya, are fighting for these values. They should count on us for democracy and shared prosperity. I know that your committee will always be in the front line to promote and defend our core values in Europe and beyond. I thank you for your attention. I look forward to the debate now.